Bonjour, je suis Céline Kallmann, bienvenue dans le titre à la une. L'enquête avance après la blessure par balle de Kenji Girac. Il est désormais certain que le tir d'arme à feu qui a touché le chanteur au niveau du thorax a bien eu lieu dans la caravane où il se trouvait ce 22 avril. Kenji Girac a été entendu par les enquêteurs depuis sa chambre d'hôpital ce mercredi. Trois jours après sa blessure par balle, Kenji Girac se trouve toujours au centre hospitalier Haut-l'Évêque à Pessac, au sud-ouest de Bordeaux. La bonne nouvelle, c'est que le chanteur va mieux. Vincent Hénin, correspondant de BFM TV en Gironde.
Le manager a donné effectivement des nouvelles plutôt rassurantes hier soir. Il dit qu'il a eu au téléphone le chanteur et il va bien, il est hors de danger. Et ce, après une opération lundi qui était assez déterminante, puisqu'on le rappelle quand même, Kenji Girac est arrivé ici à Pessac, à l'hôpital Haut-l'Évêque, avec une blessure grave par balle, une balle qui est entrée par le thorax, qui est ressortie par le dos.
Hakim Nassou, le manager de Kenji Girac, a donc expliqué aux journalistes avoir pu échanger avec le jeune homme âgé de 27 ans. Il a précisé que l'opération s'était bien passée et que son entourage communiquerait en temps utile. Kenji, lui, est donc entendu en cette fin de journée par les enquêteurs depuis sa chambre d'hôpital. Le travail d'investigation se poursuit pour comprendre comment le gagnant de la troisième saison de The Voice a pu être blessé de la sorte. Le déroulement des faits s'affine au fil des jours. On sait désormais que la nuit où le chanteur a été blessé, il était avec sa femme, Maxime Brandstatter, du service police-justice de BFM TV.
Il y a une version qui commence à se raconter, qui explique que Kenji Girac revenait du casino, il serait rentré à l'air, le campement où ils étaient, vers à peu près 2h40. Et à 7h, sa femme lui aurait demandé de sortir, écouter la musique dans sa Porsche. Et là, elle l'aurait quitté des yeux, du moins, c'est ce qu'on comprend d'un premier témoignage, qu'elle ne l'aurait plus vu. Elle aurait entendu le tir et alors elle serait revenue le voir.
Et c'est à ce moment-là que le chanteur aurait été retrouvé grièvement blessé. Les secours arrivent rapidement et Kenji, conscient, est transféré en urgence à l'hôpital. Voici ce qu'écrit le journal Le Parisien ce 24 avril. Dans les minutes qui suivent sa blessure et malgré la gravité de son état de santé, Kenji Girac parvient brièvement à indiquer aux enquêteurs qui se sont rendus à son chevet qu'il s'agit d'un tir qu'il qualifie d'accidentel. Le chanteur raconte aussi que le coup de feu est parti alors qu'il manipulait, après avoir bu de l'alcool, un pistolet automatique acheté il y a peu. Mais si le chanteur s'est blessé comme il le raconte, pourquoi l'arme n'est pas retrouvée immédiatement sur place ? Pauline Revenat, chef du service police-justice de BFM TV.
L'arme a été cherchée, retrouvé sur indication de la famille aux enquêteurs. C'est donc un Colt 45 calibre 11-43. Je parle sous contrôle du général, ça lui parlera probablement un petit peu plus que moi, on en reparlera. Et surtout, on retrouve un chargeur dans lequel il manque une seule balle.
Une seule balle semble donc avoir été tirée depuis cette arme considérablement dangereuse. D'ailleurs, d'où vient cette arme ? Le chanteur a expliqué l'avoir acheté ce dimanche 21 avril dans une brocante à la Teste de Buch en Gironde. L'organisateur de cette brocante s'est confié à des journalistes de BFM TV et voici ce qu'il leur a dit. Boris Karlamov.
Il s'appelle Dominique, cela fait plusieurs années qu'il organise cette brocante le dimanche en extérieur et il a donc déclaré « Eh bien, je ne pense pas que Kenji Girac soit venu sur la brocante, sinon il y aurait eu un attroupement de personnes selon lui. »
Concernant la vente éventuelle d'armes à feu, voici le règlement de cette brocante.
Il est écrit de ne pas vendre des armes, uniquement des armes de collection. Tout le monde est au courant de cette réglementation. Il y avait au total, selon Dominique, 70 exposants, donc dimanche dernier. Je ne peux pas tout vérifier, mais je n'ai pas vu d'armes sur les stands. Je n'ai même pas vu les gens du voyage. Et il persiste en disant eh bien, que si Kenji était venu, il aurait forcément eu un attroupement.
Précisons que détenir une telle arme est illégal. Seul un tireur sportif, licencié depuis 6 mois minimum et avec un permis, peut posséder un pistolet de ce type. Ce qui est certain, encore une fois, c'est que l'analyse balistique va être déterminante pour la suite de l'enquête. Raphaël Nedlico, officier de police judiciaire au commissariat de Chalon-sur-Saône.
Après le départ du coup, vous avez cet étui qui est éjecté de la carcasse de l'arme et elle doit atterrir normalement dans un rayon compris entre 3 et 5 mètres autour de la victime. Ce qui sera important aussi, c'est de voir les résidus de tir, puisque en fonction de la façon dont l'arme était tenue et la position du corps par rapport à l'arme, vous aurez des résidus de tir sur les mains, sur le corps, sur les vêtements de la victime.
En clair, l'arme peut à peu près tout dire. Et si la scène de l'accident a bien été préservée, sur ce Colt 45, il doit aussi y avoir des empreintes. Et donc, les enquêteurs devraient être en mesure de savoir qui tenait l'arme au moment des faits. En tout cas, les premiers résultats des analyses confirment la version accidentelle avancée par le chanteur et par des membres de sa famille déjà auditionnés. Personne dans cette affaire n'a été, du moins pour le moment, placé en garde à vue. Philippe Zdankevich, ancien gendarme.
C'est avant tout des auditions libres.
C'est des auditions libres.
Voilà, parce que les enquêteurs vont recueillir le plus possible de renseignements avec beaucoup de personnes et mettre les incohérences, les mettre devant les incohérences. Parce que c'est une affaire qui est vraiment très floue.
Des membres de la famille du chanteur présents sur l'aire de Grand Passage à Biscarrosse, où se sont déroulés les faits, ont certifié que le tir résultait effectivement d'un accident en manipulant l'arme. Une source proche du dossier déclare ceci au journal Le Parisien. Il faut rester vigilant, c'est un huis clos. Et l'action d'un tiers ou une tentative de suicide que certains proches auraient tenté de dissimuler ne peuvent pas être exclus. Bonjour Jacques Morel.
Bonjour madame.
Vous êtes général de gendarmerie, ancien patron de la section de recherche de Versailles. Le tir qui a touché Kenji Girac a eu lieu dans la caravane à l'intérieur. Ça, on le sait, c'est sûr. Il va falloir évidemment en tirer des conclusions, les conclusions des résultats des analyses balistiques. Qu'est-ce qu'il faut regarder clairement ? Est-ce que c'est les projections des éventuelles traces de sang ? D'où a été finalement tirée cette balle ?
Si vous voulez, la balistique, c'est une science qui est très exacte et les experts qui sont à Pontoise, là, sont en capacité, en fonction de le point d'entrée dans le corps, le point de sortie, déjà de savoir si c'est un tir montant, un tir descendant. Si
oui, c'est... parce que la balle est ressortie dans le dos, en fait.
C'est ça, sortie dans le dos, donc elle a dû traverser la paroi de la caravane et peut-être qu'elle est encore repartie plus loin et qu'elle a été retrouvée par les enquêteurs avec des détecteurs de métaux. On recherche parce que c'est intéressant d'avoir la balle, si vous voulez. La balle, c'est une des signatures de l'arme, en même temps que l'étui, puisque dans une cartouche, il y a la balle, c'est ce qui part, et il y a l'étui, c'est ce qui reste dans l'arme. Donc l'étui, il reste dans l'arme ou il tombe par terre. Et la percussion de l'arme et l'ogive permettent de déterminer si cette arme a déjà été utilisée, par exemple, dans d'autres dossiers. Donc c'est important pour les enquêteurs de savoir l'origine de cette arme.
Il y a une signature, en fait, c'est ça que vous dites.
Il y a une signature, exactement. Mais pour avoir la signature, il faut récupérer l'étui et il faut récupérer la balle. Donc je pense que maintenant, c'est en possession des enquêteurs.
L'arme en question a été retrouvée, ainsi que le chargeur. De quel type d'arme s'agit-il ?
C'est une arme très dangereuse, hein, qui était en dotation dans l'armée américaine au début du XXe siècle. Et c'est un calibre 11-43, c'est le plus gros calibre des armes de poing, hein, puisque Les pistolets et revolvers sont des armes de poing, c'est le plus gros calibre. Donc c'est une arme qui a une puissance d'arrêt importante. Et quand les soldats américains, dans le cadre d'un conflit, l'utilisaient, si un ennemi venait vers eux, il était stoppé immédiatement. C'était l'arme du grand banditisme il y a une vingtaine ou une trentaine d'années, si
c'est
vous voulez.
C'est une arme de collection ?
Pas vraiment, parce qu'elle n'a pas un intérêt historique. Les armes de collection, c'est des armes qui sont plus anciennes que ça. Ça, c'était une arme qui était utilitaire et en grande dotation dans l'armée américaine.
En tout cas, c'est une arme qu'on peut retrouver dans une brocante. C'est ce que raconte Kenji, en tout cas, qu'il l'a achetée dans une brocante.
Ça me paraît surprenant parce que si vous voulez, dans une brocante, vous allez trouver une arme qui a été neutralisée, c'est-à-dire empêchée de tirer. Vous allez trouver une arme qui est détériorée, sur laquelle il manque des pièces. Bon, il y a des gens qui collectionnent les armes et qui peuvent être intéressés d'avoir un Colt 45. Mais de trouver un Colt 45
chargé,
en état de fonctionnement avec les munitions et le chargeur, la personne qui mettrait ça en dépôt ou en vente prendrait des grands risques. Ça va donc intéresser aussi les enquêteurs de connaître la provenance exacte de cette arme et pour quelle raison ce garçon avait besoin de détenir une telle arme. Est-ce qu'il se sentait menacé? Parce que bon, dans cette communauté, c'est plutôt des gens qui sont des chasseurs, donc on y trouve des armes d'épaule, des fusils, des carabines de chasse, mais pas trop des armes de poing.
Une arme de poing, c'est ce que vous dites, c'est fait pour se défendre ou...
Oui, c'est ça, quelqu'un qui se sent en danger peut trouver la nécessité de posséder une telle arme pour sa défense personnelle ou celle de sa famille.
L'autre question qu'on se pose, c'est que est-ce que Kenji Girac a pu tirer lui-même ? Parce que c'est vrai que bon, si on imagine avoir un pistolet dans la main, on se tire dans le cœur. C'est vraiment que on regarde le canon finalement. C'est assez étrange.
Oui, alors ça, là aussi, je vous dis. En fonction des prélèvements de poudre qui seront faits, on saura si c'est effectivement lui qui s'est tiré dessus ou si c'est un tiers. Et on saura quel est, avec l'angle de tir, on saura la compatibilité entre un tir à bout touchant, c'est-à-dire contre son corps, ou un tir à bout portant, comme si c'était vous qui me tiriez dessus.
Son oncle, sa tante, sa compagne, au moins 3 personnes ont déjà été auditionnées. Là aussi, les versions se croisent. Et pour l'instant, rien ne contredit finalement cette théorie de l'accident.
Oui, ça paraît s'orienter, si vous voulez, vers ce que vos collègues appellent un accident domestique, hein, c'est-à-dire soit une mauvaise manipulation, soit une bousculade, et à l'occasion d'une bousculade, quelqu'un avait une arme en main et le coup de feu est parti.
Est-ce que cette enquête peut rester secrète pendant un temps, les uns et les autres se protègent ?
Je pense que c'est le procureur de la République qui va maîtriser la communication, et quand il aura suffisamment d'éléments, et notamment quand la victime aura été entendue, il y aura une communication qui permettra de dire tout de suite il s'agit d'une dispute familiale qui a mal tourné, il y a eu une bousculade, le coup de feu est parti par erreur à l'occasion de la bousculade, ou il y aura une autre explication. Est-ce que ce garçon était dépressif ? Enfin, moi, je ne le connais pas, mais les utilisations d'armes à bout portant, on trouve ça chez les gens qui veulent se suicider, quoi, hein. Mais bon, apparemment, ça n'a pas été... décrit comme ça pour le moment. On parle plutôt d'un accident.
Kenji Girac est entendu en cette fin de journée par les enquêteurs. Quelles sont les premières questions qui lui sont posées ?
Premièrement, de valider ce qui apparaît maintenant comme le cadre de cet accident. Ça s'est passé à l'intérieur de la caravane et non pas dans sa voiture. Que cette arme, c'est bien lui qui la détenait. Bon, dans quelles conditions il l'a détenue ? L'histoire de la brocante, quelle brocante, quand, où, quelle personne, comment ça a été payé ?
Et ça, on imagine déjà que les enquêteurs sont sur le coup. Ils sont déjà allés trouver le brocanteur, j'imagine, non ?
S'il a donné des explications, mais c'est pas, pour l'instant, je ne pense pas qu'il a été questionné comme ça. Il a fait des déclarations spontanées aux pompiers et aux premiers gendarmes qui sont venus, mais il n'a pas été entendu. Donc, c'est des questions qui vont lui être posées dans le cadre de sa première audition.
Si la version de l'accident est bien avérée, finalement, qu'est-ce qui peut être reproché au chanteur ? Pas grand-chose.
La détention de cette arme, la possession de cette arme, quoi. Mais bon, c'est...
Oui, parce qu'il faut un permis. Et en l'occurrence, il n'en a pas.
C'est ça. On peut détenir cette arme que uniquement si on est tireur sportif, affilié à la Fédération française de tir et qu'on a une autorisation qui est délivré par la préfecture de l'endroit où on demeure. Hein. C'est une arme de catégorie B, c'est les anciennes premières catégories, donc c'est très réglementé, aussi bien la détention, la possession des munitions que de l'arme.
Et donc il peut être condamné pour cela ?
Oui, il peut être sanctionné, oui.
Qu'est-ce qu'il risque ?
C'est des peines d'amende, hein, si vous voulez, le fait de détenir une arme sans autorisation.
Merci beaucoup Jacques Morel.
Je vous en prie.
Merci d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une. Et merci à Perlam Sika pour le montage de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté. N'hésitez pas à le partager, à le commenter sur les plateformes de podcast. Le titre à la une, c'est tous les jours, du lundi au vendredi, et tous les soirs sur BFM Radio à 19h30.